Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là, c'est bien. Tout d'abord, veuillez m'excuser. Hein, apparemment, il y a eu un petit problème de souci avec le chauffage. C'est pour ça que vous êtes bien étouffé là. Et bien éveillé. Comme ça, au moins, vous n'allez pas vous endormir. C'est une bonne chose. Mais bon, j'ai remis le chauffage, donc ça va bientôt réchauffer. Tout à l'heure, pas maintenant. En tout cas, pour le culte arménien, ils seront au chaud. Voilà, en ce moment, vous savez que bientôt nous aurons l'AG de l'Église. Et c'est pour ça que je demande à certaines personnes qui ne sont pas encore membres de l'Église de demander pour leur adhésion à l'Église. Et quand je discute souvent avec eux, la question que moi je reçois souvent, c'est: est-ce que l'église de Vendeuvre est assez ouverte pour le ministère féminin? Bah oui. Bah oui. L'église est assez ouverte pour permettre justement aux femmes de prendre la parole à l'église sans problème. Mais je leur ai dit même, voilà, nous avons même une prédicateur. Prédicateur? Prédicatrice Christelle, qui prêche assez régulièrement. Et dans le passé aussi, nous avons toujours eu des femmes prédicatrices. Et de même, on a aussi pas mal de femmes qui président le culte. Et voilà, il n'y a pas de problème, en tout cas, pour donner la parole aux femmes. Il est vrai que c'est un sujet que nous avions déjà abordé dans le passé. Parce que voilà, nous voulions que toute l'Église soit assez ouverte pour le ministère féminin, et c'est pour ça qu'il y a quelques années de cela, nous avions invité Patrice Alcindor, qui était notre président de l'Union d'Église et qui était venu jusqu'ici pour consacrer un week-end tout entier pour parler du ministère féminin. Mais c'est vrai que les gens d'aujourd'hui, ben, ça fait longtemps. Et puis, il y a beaucoup de nouveaux qui n'ont pas, peut-être pas entendu, en tout cas, sur ce sujet-là que j'ai apporté. Que je vais apporter, en tout cas, ce matin. C'est pourquoi, en tout cas, j'ai choisi aujourd'hui le passage de Genèse, chapitre 1. Et on va voir à travers le personnage Ève ce qu'est le ministère féminin. Ça va? Oui? Alors, chapitre 1, versets 27 et 28, que je vais vous lire. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà, jusqu'ici notre lecture. Dans la Bible, nous voyons Adam et Ève qui ont été créés, qui ont un rôle essentiel dans la complicité pour gérer ce monde. Et donc, à travers, surtout en voyant davantage sur ce personnage Ève, que nous allons voir la position de la femme. Et en tout cas, dans ce qu'on vient de lire, on voit que Ève a été aussi créée égale à Adam. Égale à Adam. Il y a trois raisons. Trois raisons. Tout d'abord, au 27, verset 27, il est dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme. Donc, le verset 27 de la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Cela signifie que chaque personne reflète quelque chose de spécial de Dieu. En d'autres termes, nous avons tous une part de la nature divine en nous. Cette idée nous montre que chaque individu, que ce soit homme ou femme, a une grande valeur de dignité, puis simplement parce qu'ils sont créés par Dieu. Et cela nous encourage à agir, à traiter les autres avec respect et amour. Regardez ceux qui sont autour de vous, à côté. Hein? C'est la création de Dieu. Hein? Et même peut-être on pourrait la saluer, tu es une créature de Dieu. Oui, vous pouvez saluer les uns des autres. Et on va dire encore ceci, tu es créé selon l'image de Dieu. Voilà, tu es créé selon l'image de Dieu. Nous avons été créés selon l'image de Dieu. Amen. Ça veut dire que faudrait être capable de voir l'image de Dieu à travers l'autre. Ce matin, on a parlé beaucoup de joie, mais à travers la joie de l'autre, on pourrait peut-être voir l'image de Dieu. On pourrait voir peut-être, voilà. Enfin, je pourrais encore continuer là-dessus, mais je vais m'arrêter là. En tout cas, que ce soit homme ou femme, nous avons été tous créés selon l'image de Dieu. C'est pour ça que nous sommes tous égaux. Deuxième raison pourquoi nous sommes égaux, égal, égaux. Dieu a demandé aussi le même leadership à la femme. Au verset 28, il est dit que Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ce verset 28 montre que Dieu a donné à l'homme et à la femme un même mandat de leadership. Tout ça. Nous avons donc reçu ce mandat de leadership sur la création, sur toute la création. Quand nous lisons dominer sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre, Dieu nous confie en tout cas à l'homme et à la femme la responsabilité de gérer et de prendre soin de toute la création. Cette autorité n'est pas exclusivement réservée à l'homme, mais s'adresse à l'ensemble de l'humanité, l'homme et la femme. Et en utilisant l'expression il leur dit, c'est pas seulement à l'homme, il leur dit. Donc la Bible souligne que cette charge est donnée à la fois à l'homme et aussi à la femme. Ainsi, dès le début, Dieu attendait des deux sexes qu'ils assument ensemble la responsabilité de prendre soin de la création et d'exercer un leadership équilibré sur toute la terre. Donc ceux qui sont un petit peu pour la préservation de la nature, voilà un petit clin d'œil hein, là-dessus. Et puis troisième point, pourquoi l'homme et la femme sont égaux? Ben l'homme et la femme ont tous aussi besoin d'être sauvés de la même manière, de la même manière. Dans Galates, il est dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme et ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ce passage de Galates souligne l'unité et l'égalité des croyants en Jésus. Il déclare qu'en Christ, il n'y a plus de distinction entre les différentes personnes, que ce soit juif, grec ou esclave, libre, riche, ou pauvre, ou homme, ou femme, nous sommes tous un en Jésus-Christ à partir du moment où nous avons accepté le Christ dans notre cœur. Dans le contexte de l'épître de Galates, l'apôtre Paul explique que le salut est reçu par la foi en Christ, non par les œuvres, mais voilà, que ce soit homme ou femme. Ainsi les hommes et les femmes sont tous déchus dès la création, à partir du moment où ils ont péché, ils sont corrompus par le péché et ils ont besoin tous le salut offert par Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Oui. Ça va. Il fait un peu froid, donc ça va. C'est vrai que lorsqu'on réfère au premier péché de la Bible, ben on pense souvent à Adam et Ève. Voilà le contexte dans l'histoire d'Adam et Ève. Dieu place Adam et Ève, les deux, dans le jardin d'Éden et leur donne une seule interdiction, de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cependant, le serpent, donc représenté par Satan, les trompe en remettant en question la parole de Dieu et en leur disant qu'ils ne mourront pas s'ils mangent du fruit. Et Ève succombe bien sûr à la tentation, mange le fruit et en donne aussi à Adam, qui en mange aussi également. Et c'est donc cette désobéissance et le péché, c'est par cette désobéissance que le péché entre dans le monde et qui entraîne aussi des conséquences tragiques pour toute l'humanité. C'est pas seulement l'homme qui a péché, mais la femme aussi. Enfin, je dirais la femme d'abord, n'est-ce pas? Que ce soit la femme d'abord ou l'homme après, il est important de noter que la responsabilité de péché n'est pas attribuée seulement à la femme, mais aussi à toute l'humanité tout entière, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement Adam et Ève, mais à toute l'humanité entière, puisque là, le péché est entré, et ce péché originel est transmis de génération en génération. En tout cas, voilà, Adam, le premier homme, avait été chargé par Dieu de garder le jardin, et puis, ben voilà, ils ont péché, conjointement responsables de l'entrée du péché dans ce monde. Et puis, voilà, suite à leur désobéissance, donc Adam et Ève ressentent pour la première fois la honte. Ils se cachent devant Dieu quand Dieu dit « Mais où es-tu, Adam ?» Ils se cachent. Quand il les retrouve, voilà, mais pourquoi t'as fait ça? Et puis, ils tentent chacun de rejeter leur responsabilité en disant, l'homme dit, bah, en fait, Seigneur, mon Dieu, c'est pas ma faute. Enfin, il n'a pas dit ça, hein, il n'a pas dit comme ça. Mais il a insinué comme si c'était pas sa faute en disant que, ben non, c'est la femme. J'en avais pas, j'avais pas cette femme-là. Mais la femme que tu m'as donnée, donc c'est un peu la faute de Dieu aussi. Hein. La femme que tu m'as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc c'est la femme, la faute de la femme, la faute de Dieu. Après, la femme dit, ah non, c'est pas moi, c'est la faute de Satan, bien sûr. Hein. De même, en tout cas, cette réaction montre la nature déchue, la nature pécheresse de l'homme. En fin de compte, ce passage met en lumière le besoin universel de rédemption et de restauration en Christ. Et que ce soit l'homme ou la femme, nous avons tous besoin de ce salut par la croix, par Jésus-Christ. Donc nous sommes tous égaux, il n'y a pas de supériorité. Par contre, il y a une différence quand même. Personne ne peut nier que nous sommes différents. Physiquement, n'est-ce pas? On est tous différents. Il existe effectivement une distinction physique entre les hommes et les femmes. Nos corps sont anatomiquement différents. Mais malheureusement, bien sûr, dans le monde aujourd'hui, cette distinction est souvent négligée. Vous connaissez la théorie du genre. Même les enfants sont enseignés par cette théorie du genre. Vous confirmez ça? Cette théorie nie quoi? Bah, la différence biologique entre les différents sexes. Cette théorie soutient que l'identité du genre n'est pas déterminée par la biologie, mais elle est plutôt du produit de l'éducation, c'est-à-dire que on peut devenir femme, on peut devenir homme si on reçoit une certaine... on grandit dans un environnement social dans lequel voilà, on peut être influencé. Et c'est nous qui décidons de devenir femme ou homme. En tout cas, Simone de Beauvoir, qui est, on pourrait dire, c'est l'ancêtre de cette théorie de genre, hein, affirmer que l'on ne naît pas homme ou femme, mais que l'on le devient, d'après Simone de Beauvoir. Selon cette vision, chacun est libre de définir sa propre orientation sexuelle indépendamment de notre sexualité. Enfin bref, non, nous ne sommes pas d'accord. Il y a bien une différence entre l'homme et la femme de manière physique. Au verset 28, chapitre 2, verset 18, il est dit que l'Éternel, Dieu, dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, il décide de lui créer une aide semblable à lui. Cette expression indique clairement qu'Ève est conçue comme une partenaire, une aide complémentaire pour Adam. Est-ce que vous avez déjà été aidé par quelqu'un? Oui? Et si vous aviez besoin d'aide, ces gens-là, normalement, apportent quelque chose que vous n'avez pas, que vous avez besoin. Ou peut-être qu'ils sont plus qualifiés pour vous enseigner certaines choses. Je ne vais pas continuer. Je pourrais donner plein d'exemples, mais non. Bon, là, on va bifurquer un peu de notre sujet. Ève a été créée comme une aide semblable à lui. Souvent, on pourrait dire, ah oui, une aide, c'est quand même qu'il y a quelqu'un plus de talent, plus de capacité, etc. Donc, c'est normal que l'homme est un peu inférieur. On a tendance aussi à dire ça, enfin certains, mais non, semblable à lui, égaux. Donc, voilà, Ève n'est pas du tout conçue, Ève n'est pas du tout conçue comme une servante ou une subordonnée, mais une partenaire, une aide complémentaire pour Adam. Dieu établit donc un équilibre dans la relation entre l'homme et la femme. Ainsi, Adam est formé à partir de la terre, donc Adam hein, qui veut dire la terre, et puis Ève qui veut dire la vie, Tavah en hébreu, hein, qui veut dire la vie. Donc voilà, déjà par leur nom, c'est différent. Par leur aussi, comment ils étaient constitués, c'est différent aussi. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc en fait, oui, Ève n'a pas été créée à partir de la terre, mais à partir de la côte de... Enfin, côte, je ne sais pas, hein, ça peut être par là. Hein, enfin... pour protéger les organes vitaux, en tout cas, de l'homme. Alors, pourquoi Dieu a choisi la côte? Pourquoi pas la tête ou les pieds? Il aurait pu choisir un os de la tête pour créer Ève, ou les mains, oui, les pieds. Pourquoi pas? D'après un théologien renommé, donc Matthieu Henry, il apporte un certain éclaircissement sur le choix de la côte comme matériau de création pour Ève. Selon lui, la côte est choisie spécifiquement pour symboliser une relation d'intimité et de partenariat entre Adam et Ève. Et puis, surtout, pourquoi il n'a pas choisi l'os de la tête? Tout simplement parce que la tête est souvent associée à quoi? À la domination. À la domination et au leadership. Donc si Ève avait été formée à partir de la tête d'Adam, ça aurait pu impliquer une position de supériorité de la femme sur l'homme, ce qui n'est pas conforme à l'égalité voulue par Dieu. De même, les pieds sont souvent liés à la servitude, voilà, à la soumission. Et si donc Ève avait été créée donc, à partir des pieds d'Adam, cela aurait pu suggérer un rôle subalterne. Dérisoire pour la femme, ce qui contredit également aussi l'idée d'une relation équilibrée entre les deux. Donc, en choisissant la côte, Dieu exprime symboliquement son désir de protéger les organes vitaux d'Adam, et puis en soulignant aussi que le rôle d'Ève en tant que compagne et confidente. La côte est proche des organes vitaux et surtout proche du cœur, ce qui symbolise une relation d'intimité, de soutien mutuel et aussi de protection, d'après Matthieu Henry, que je suis d'accord. En étant créée donc à partir de la côte, Ève est conçue comme une partenaire égale et complémentaire pour Adam. Ainsi, le choix de la côte pour créer Ève met en lumière donc l'intention de Dieu de créer une relation profonde, harmonieuse entre homme et la femme, basée sur l'amour, le respect mutuel et la complémentarité. Voilà. Nous sommes égaux, mais différents quand même. Différents par la consistance de la création, du matériau. Adam a été créé à partir de la terre et Ève à partir de la côte. C'est pourquoi, au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà, c'est deux entités différentes, deux personnes différentes, même si avec une position égale. Ce verset tiré de la Bible dans ce livre de la Genèse souligne l'importance de l'union entre un homme et une femme dans le mariage. Il évoque le concept de quitter son père et sa mère pour former une unité, une nouvelle unité. Quitter sa mère et son père est très important pour former une famille. Souvent, j'avais du mal avec ça. Vous savez que je suis un fils à maman. Enfin, pendant 33 ans, ben, j'étais célibataire. Enfin, j'étais célibataire. Je sortais toujours avec beaucoup de personnes, mais en tout cas, mais célibataire, j'étais pas marié. Et donc, j'étais toujours très très proche avec ma maman. Pas forcément avec mon père, mais avec ma maman, on pouvait me laisser pendant toute la journée, je pouvais discuter du matin jusqu'au soir. Hein, je pouvais vraiment discuter tout le temps, tout le temps. C'est un peu, j'étais le fils favori, entre guillemets, il ne faut pas dire ça aux autres frères, de ma maman. Et donc, j'étais assez attaché, même après le mariage, j'étais assez attaché. Et je lui téléphonais souvent, etc. D'ailleurs, ma femme était un peu jalouse, parce que... Voilà, je parle en coréen, donc elle ne comprend pas ce que je dis. Hein. Elle ne comprenait pas ce que je dis et je parle. J'arrivais à parler pendant des heures avec ma maman au téléphone. Elle me disait, mais chérie, mais c'est bien d'honorer nos parents, mais quand même. Quand même. Il est bien dit dans cette parole que, bah oui, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et ma femme me disait, mais il faut quand même couper à un moment donné ce cordon ombilical. Et, ok, d'accord. Et donc, j'ai coupé cet cordon ombilical en lui téléphonant une fois par semaine. Ça va encore? Bon, de nos jours, c'est encore un peu plus rare, parce que comme j'ai pas mal de travail, je lui téléphone peut-être une fois toutes les deux semaines. Voilà. Parfois, toutes les trois semaines aussi. Voilà. Enfin bref, j'ai bien coupé le cordon ombilical pour avoir une famille saine, hein, n'est-ce pas? Pour former aussi, pour devenir une seule chair. C'est très important dans la vie du couple. Et voilà. J'en étais d'ailleurs. voilà. Le verset donc met également en lumière l'intimité profonde et l'unité physique qui doivent caractériser le mariage. Donc, on devient une seule chair. L'homme et la femme fusionnent, non seulement sur le plan émotionnel et spirituel, mais aussi sur le plan physique. Ainsi, voilà, en somme, ce passage souligne l'engagement exclusif, c'est-à-dire homme et femme ensemble, non pas homme avec homme ou femme avec femme, c'est ce que nous voyons en ce moment dans la vie, dans la société. Mais non, d'après la Bible, c'est l'engagement exclusif seulement avec une femme ou avec un homme, hein, avec un sacré de mariage. Voilà, hein. C'est vrai qu'il y a, dans certaines cultures, il y a la polygamie, mais la polygamie n'est pas quelque chose que Dieu... Enfin, Dieu a toléré à un moment donné, mais non, la volonté première de Dieu, c'est qu'il n'y a qu'un seul homme et une seule femme pour former ce mariage. Bon, ça, je ferme l'entre parenthèses, hein, ce n'était pas forcément le sujet d'aujourd'hui. Enfin bref, si, ça a un rapport aussi. Enfin bref. Genèse 3, 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et lui, il te blessera le talon. La différence entre la femme et l'homme, c'est que, ben en fait, la femme, c'est la mère de tous. C'est la mère de, ben déjà, de la postérité de la femme. On parle de qui? C'est Jésus. La mère, c'est en fait l'ancêtre, on peut dire comme ça, l'ancêtre de Jésus, l'ancêtre du Messie. Hein, c'est ce que Genèse dit déjà dans chapitre 3. Dès la chute de l'homme, dès que le péché est entré dans ce monde, Dieu même prédit le plan du salut en disant que je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Donc la postérité de la femme, Jésus qui allait venir, écraserait la tête du diable. Et toi, tu lui blesseras le talon. Effectivement, le diable a aussi blessé le talon de Jésus, c'est-à-dire par la croix, par le sacrifice, par la mort. Mais il a été ressuscité. Ainsi, ces passages mettent en tout cas en lumière le rôle essentiel de la femme dans le plan divin de salut. Donc oui, la femme a pleinement participé dans ce plan divin de salut en mettant au monde ce Jésus. Dans Genèse 3, 20, il est dit « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. » Donc dans Genèse 3, 20, Adam donne à sa femme le nom d'Ève, car elle est la mère de tous les vivants. Ce passage souligne le rôle fondamental en tant que source de la vie humaine, symbolisant ainsi son importance en tant que mère de toute l'humanité. Voilà, la mère représente la mère de toute l'humanité. Le nom Ève dérive du nom d'hébreu Tava, donc ce qui signifie la vie. Ève, en tant que mère de la vie, souligne aussi donc la contribution à la procréation et à la perpétuation de l'humanité. Voilà la femme différente de l'homme. Il y a un rôle différent entre la femme et l'homme. J'ai commencé en disant que, beaucoup de gens posent la question entre, mais est-ce que l'église locale, est-ce que l'église de Vendeuvre est assez ouverte au ministère féminin? Alors, j'aimerais vous lire un petit texte sur la position de l'église par rapport à ce ministère féminin. En 2007, l'église de Vendeuvre avait réfléchi là-dessus et nous avons écrit un texte en disant que les valeurs, la valeur d'une personne et la valeur de la foi ne dépend pas de son sexe, ni de son statut social, ni de sa fonction dans la communauté. J'espère que vous avez compris. L'homme est tout à fait libre, enfin la femme est tout à fait libre pour exercer. Il n'y a pas de différenciation que l'église doit faire. L'engagement de chacun à n'importe quelle fonction, chacun, qui veut dire homme ou femme, est lié au don qu'il a reçu du Seigneur et aux compétences apprises. Donc, si vous avez un don dans n'importe quel domaine, vous pouvez l'exercer. L'autorité en matière doctrinale incombe aussi au conseil pastoral, c'est-à-dire de vérifier ce qui est dit dans les cultes. Enfin, c'est pas ça. Nous préparons les hommes et les femmes à la présidence du culte et nous laissons une large place à chaque membre de la communauté pour la prise de parole dans le culte en accord avec le président du culte. Les femmes peuvent prêcher dans le culte ponctuellement. Bon, il est dit plus ponctuellement, mais ce n'est pas forcément ponctuellement. Elles peuvent animer, enfin nous avons évolué, hein, il n'y a pas qu'une prédication ponctuelle, mais assez régulière. Elles peuvent animer des groupes bibliques et enseigner dans les rencontres spéciales. C'est ce qui se fait aussi. Voilà. Alors j'aimerais peut-être donner encore un autre point de la position de l'Église quand même, qui a discuté. Alors, quand je dis la position de l'Église, ce n'est pas la parole de Dieu. Il ne faut pas prendre ça comme une parole de Dieu. J'ai bien dit, c'est la position de l'Église. Parce qu'il peut, y avoir plusieurs positions selon la théologie de l'Église. Pour nous, en tout cas, pour l'Église de Vendeuvre, il y a quand même un point que j'aimerais quand même soulever. Nous avons... peut-être que ça peut être évolué, ça peut évoluer par la suite. Je vous prépare avant de lire ce passage. Nous ne souhaitons pas de conseillers pastoraux, donc anciens femmes, par respect pour la parole de Dieu dans 1 Timothée 2, mais sans rompre la communion avec des communautés évangéliques qui acceptent le pastorat féminin. D'ailleurs, dans notre propre union d'église, nous avons des femmes pasteurs, pour information. Mais au niveau local, pour l'instant, on ne souhaite pas le conseiller pastoral. Ça peut évoluer. Moi, j'aimerais quand même qu'on change, que ça change. Mais enfin, en tout cas, nous avions réfléchi ça en 2007. Et pour l'instant, on l'a gardé. Ensuite, si vous avez une question sur le ministère féminin, voilà, vous avez bien entendu, hein, vous n'avez pas besoin de reposer la question. Ensuite, le deuxième test sur le ministère féminin que Perspective a mis en accord, enfin, a mis en place, j'aimerais vous lire quand même, le ministère pastoral féminin. Outre la diversité des ministères pastoraux, il faut encore souligner la spécificité des ministères pastoraux exercés par les femmes. Le Nouveau Testament ne montre pas clairement d'exemple de ministères comparables à nos ministères pastoraux actuels qui auraient été confiés à des femmes. Dans certains contextes, l'apôtre Paul a même posé des restrictions à la prise de parole des femmes. Toutefois, des exemples de femmes choisies par Dieu pour des rôles de leadership, bien que rares, sont attestés dans l'Écriture, malgré un contexte culturel bien moins favorable que le nôtre. Ceci nous rappelle que Dieu reste souverain dans la conduite. Théologiquement, nous considérons que les ministères pastoraux sont donnés à l'Église dans son ensemble et non seulement à une Église locale. Sur le plan opérationnel, nous estimons que les pasteurs sont donnés à l'union d'Église. On trouve toutefois l'exemple de femmes exerçant des ministères évangéliques et de prophètes, ainsi que de femmes qui prennent soin de l'Église en enseignant son peuple. C'est pourquoi nous acceptons le principe de l'exception pour les ministères pastoraux féminins. Ça existe toujours, mais une exception. Si donc l'appel d'une sœur au ministère pastoral est confié localement par une assemblée, l'union acceptera d'instruire son dossier de candidature en vue d'une possible reconnaissance pleine et entière au sein du corps pastoral de l'union, les églises locales restant par la suite libres de faire appel ou pas au ministère de cette sœur. Donc, si même si l'union d'Église est d'accord de nommer, de consacrer une femme pasteur et que l'union veut envoyer cette femme pasteur dans notre Église, l'Église locale peut dire non, nous on ne veut pas de femme pasteur. Voilà, on donne la liberté. Voilà un petit peu pour le ministère féminin. Est-ce que vous êtes un petit peu au clair? Oui? Ce qui est sûr, c'est que nous avons vu au départ hein, ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Enfin, en fait, on pourrait approfondir ce sujet davantage. Dans 2 Timothée, Paul a écrit beaucoup de choses sur la femme et on pourrait même passer des heures à discuter, à palabrer. Mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr dans ce qui est marqué, c'est que nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux, il n'y a pas de différenciation à faire. Mais nous sommes aussi différents. Dieu a donné un rôle différent. Il y a aussi l'ordre créationnel. Dieu a créé d'abord l'homme et ensuite la femme. Voilà, nous sommes égaux. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Dieu a donné à l'homme et à la femme le même mandat de leadership sur la création pour gérer le monde entier. Et puis l'homme et la femme ont tous aussi besoin d'être sauvés de la même manière. Donc nous sommes tous égaux. Dans ces 3 points, même plusieurs, on pourrait encore continuer dans ces égalités. Mais il y a quand même une différence de rôle entre l'homme et la femme, c'est que, voilà, Ève est conçue, voilà, par la côte, comme une partenaire complémentaire pour Adam, qui a été créé par la terre. Et par le sacre du mariage, ben, la femme est devenue la mère de toute l'humanité, hein, bien que seul Dieu puisse donner la vie, c'est Dieu qui donne la vie. Mais Ève, donc la femme, on pourrait dire comme ça, la femme est présentée comme un instrument choisi par Dieu pour réaliser son dessein de peupler la terre. Voilà, la mère de tous. J'espère avoir été un peu plus clair sur le ministère féminin et que ça ne vous posera pas de problème pour devenir membre de notre Église. Sinon, la confession de foi, si, en tout cas, si vous voulez devenir membre, dites-moi, je vous enverrai le statut, le règlement intérieur et la demande d'adhésion. Comme ça, vous pourriez réfléchir, prier, et sur la confession de foi aussi, vous pourriez voir et prier et pour devenir membre. Ainsi, ben pourquoi, quel est l'avantage de devenir membre? En fait, vous pouvez vous impliquer davantage, vous pouvez voter. Si vous n'êtes pas content contre le pasteur, vous pouvez voter en disant, non, non, j'aime pas trop le pasteur. Vous pouvez dire ouvertement votre voix. Hein, et puis partager votre point de vue. C'est important de vivre ensemble, mais en devenant membre, là, vous devenez, vous, enfin, c'est comme un peu comme un mariage. Vous savez, voilà, on peut venir à l'église en tant que sympathisant. On aime bien l'église de Vendeuvre, c'est sympa, etc. Mais on pourrait s'impliquer davantage. On pourrait s'impliquer davantage. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas encore devenus membres. Vous pourriez faire votre demande. Merci à tous. Je vais terminer par la prière. Seigneur, merci pour ta création. Merci Seigneur de nous avoir fait égaux, sans distinction, pour le salut, pour gérer ce monde, pour nous avoir créés selon ton image, alors que nous n'avons pas mérité. N'y a rien de bon en nous, mais malgré nos péchés, tu as décidé de venir sur la terre, te sacrifier pour mes péchés, pour mon salut. Et voilà, merci vraiment pour cette grâce que tu nous as accordée. Seigneur, ce matin, nous avons vu aussi la place de la femme dans ce monde. Et c'est vrai que nous sommes égaux, mais en même temps, nous sommes différents. Nous avons chacun un rôle différent à gérer. Seigneur, merci de donner les dons nécessaires, la puissance, la sagesse nécessaire pour gérer à chacun notre rôle à assumer dans ce monde. Voilà, tu nous as appelés aussi à être sel et lumière. Et tout cela aussi a besoin de grâce, que tu sois avec nous. Merci aussi, Seigneur, parce que voilà, tu as permis que hommes et femmes s'unissent davantage pour former un seul corps et pour aussi réaliser ton plan. Que voilà, tu nous donnes aussi l'opportunité pour bien gérer cette, oui, cette fonction que tu nous as confiée. Oui, Seigneur, sois avec nous. Et bientôt nous aurons aussi l'AG au mois de mars. Et nous avons aussi besoin de. Bah, ce sera aussi l'opportunité de revoir l'année écoulée, mais en même temps, peut-être mobiliser davantage entre nous pour réaliser ton plan. Seigneur, sois aussi avec nous, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Les annonces.